Merci, merci beaucoup de cette présentation. Si maintenant il faut présenter le modérateur, où va-t-on? Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant mieux peut-être. Bien, je vous propose à soirée exceptionnelle, forme exceptionnelle, et je vous propose donc une forme tout à fait simple, adaptée à cet endroit coloré et amical, de manière à ce que nous puissions tirer le maximum de cette soirée. Pourquoi soirée exceptionnelle? Parce que le ton que je voudrais vraiment qu'il mette tout le monde le plus à l'aise possible ne doit pas donner l'impression que c'est une soirée banale ou ordinaire. Elle est extraordinaire, et bravo à tous ceux qui ont organisé cette soirée. Vous avez ce soir la chance d'avoir en face de vous, je ne vais pas utiliser trop d'adjectifs, je les utilise une fois puis après je les mettrai de côté, un grand philosophe et un grand dirigeant. Un philosophe et un dirigeant. C'est assez rare d'avoir deux personnes de cette fonction qui se retrouvent et qui acceptent de confronter leurs idées, de parler ensemble. C'est assez rare. Ce qu'on reproche précisément au monde des affaires actuellement, c'est qu'il ne pense plus, c'est qu'il soit, et ça reste une réalité, c'est un point sur lequel je reviendrai, ça reste une réalité, c'est-à-dire, quand je dis qu'il ne pense plus, la phrase est peut-être un peu rapide, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans le court-termisme, et Antoine, vous êtes souvent soulevé, on reviendra beaucoup, je crois, dans cette soirée sur la notion de temps contre le court-termisme. On est dans l'efficacité immédiate. Et puis, de l'autre côté, des philosophes qui laissent leurs cheveux pousser, ont des cols chinois, des vestes en velours, et qui font qui ont la chance d'avoir parfois des articles, des demi-pages vers la fin de grands quotidiens. Et qui peuvent assez facilement, c'est assez commode à ce moment-là, émettre des jugements, des avis sur ce que devrait être le monde des affaires. C'est une réalité, au-delà de l'aspect un peu amusant, c'est une réalité. Et d'avoir la chance ce soir d'avoir une confrontation positive entre deux personnes qui assument chacun ce rôle dans la société, ce sont deux rôles dans la société, c'est une chance pour nous, et surtout vu la qualité des deux orateurs. Alors, je crois qu'il faut, à partir de là, situer ce débat, principalement pour, je crois qu'il est intéressant de situer le débat de ce soir dans ce cycle de conférences annuelles auquel j'ai eu la chance de participer, avec vos organisateurs, de participer à l'élaboration de ce cycle. Donc il s'appelle, pour bien situer ce débat, parce que je pense qu'il ponctuera vraiment, il doit ponctuer la session 2013-2014, de la valeur actionnariale à la valeur partagée. Bon. Je ne sais pas où, si nous sommes à mi-chemin. Si vous avez le chemin de l'année, je ne suis pas sûr que le monde des affaires soit à mi-chemin de cette route-là. Le constat de départ des organisateurs du cycle, ainsi que celui de tous les orateurs, ont convergé. Hein, ça s'est vu. Je reprends ce que vous disait Philoma au début de l'année. Le capitalisme de marché a été un remarquable moteur de création de richesses. Mais s'il continue de fonctionner pendant les 25 prochaines années comme il l'a fait pendant les 25 dernières années, nous dirigeons vers des temps agités, ou pire, un effondrement du système lui-même, et on en voit évidemment beaucoup de signes. Dépasser le mythe popularisé par Milton Friedman, et auquel adhèrent encore de nombreux managers, mais je connais, bon, comme beaucoup ici, dans cette salle, un petit peu le fonctionnement du monde des affaires, et les choses ne changent pas, les choses s'aggravent même sur un certain nombre de points. Les choses s'aggravent, même s'il y a des signes positifs, il y a des signes, je les indiquerai, j'en reparlerai tout à l'heure, il y a des signes qui, notamment sur la détention du capital des entreprises, qui nous amènent vers des temps beaucoup, encore plus difficiles que ceux que nous avons connus. Donc difficile de dépasser cet objectif, dépasser ce que serait l'objectif ultime, accroître ses profits et maximiser la valeur actionnariale. Alors 5 séances ont déjà eu lieu. ces blancs notamment, et de nombreuses propositions ont été faites, ont été élaborées ici, des propositions, et là encore, bravo à la sagacité des organisateurs, beaucoup de propositions tout à fait intéressantes. Blanche Segrestin, qui est là ce soir, notamment, récemment, a développé ici des propositions que vous retrouvez dans l'ouvrage rouge, de couleur rouge, qui est devant vous, dont je vous recommande la lecture, qui travaille, enfin, il y a deux grandes idées. Je les mentionne simplement pour là encore replacer un peu le décor. C'est d'une part une approche de l'entreprise extrêmement intéressante. L'entreprise, un bien commun, hein, non pas elle veut, et je la suis tout à fait sur ce sujet-là avec Armand Atuel, redonner l'importance à l'entreprise et non pas au véhicule juridique à la société. L'entreprise, un bien commun qui suppose une organisation qui encourage l'innovation et dont le dirigeant bénéficie d'autorité de gestion. À partir de là, ils ont pensé à ce qu'on a une société à objet social étendu. Ils travaillent sur l'objet. L'objet, est-ce qu'il peut y avoir des objets d'intérêt général pour une société ? Ils ont ça. Cette réflexion-là, elle est similaire ou comparable à une réflexion conduite aux États-Unis avec la Multipurpose Company et la Benefit Corporation. Deux mouvements, qu'on y reviendra peut-être, intéressants, qui montrent, et c'est à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, ça, ce sont les signes positifs, un certain foisonnement législatif, surtout de l'autre côté de l'Atlantique, qui permettrait à une entreprise d'afficher dès le départ et donc de pouvoir opposer à ses actionnaires, quand je dis opposer, oui, opposer à une demande qui serait trop pressante, à ses actionnaires, des objectifs sociétaux. Et puis l'autre grande proposition qui est le contrat d'entreprise avec une notion de participation démocratique et surtout une notion tout à fait intéressante d'habilitation du dirigeant. Mais vous avez aussi ici Lean Stout. Lean Stout, le combat de Lean Stout, je le mentionne pour ceux qui peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance de l'entendre, c'est de la personne qui le plus fortement aux États-Unis remet en cause le concept de valeur actionnariale en disant attention, vous vous trompez, et elle le fait de manière intéressante. Enfin, évidemment, elle le détruit économiquement, elle le détruit juridiquement, et c'est pas extrêmement compliqué, mais au-delà de cela, elle dit attention, l'actionnaire tel que vous le percevez, il couvre peut-être des réalités plus diverses que vous ne le pensez. C'est peut-être derrière l'intermédiaire qui effectivement le représente, il y a des personnes qui ne feraient pas les choix à titre personnel que fait l'entreprise. Il y a une variété de personnes. Réfléchissez peut-être à essayer de voir comment vous pourriez faire accepter des choix à plus long terme si vous aviez une meilleure appréhension de qui est l'actionnaire. Vous voyez, ça c'est également, donc ça c'est un thème, c'est évidemment très américain, puisqu'elle ne remet pas en cause la primauté de l'actionnaire. On est dans un autre contexte que le nôtre, mais il y a là aussi une recherche qui est tout à fait intéressante. Cécile Renoir est venue, elle vous parlait beaucoup d'éthique, hein, avec également, elle a sorti un livre intéressant sur l'éthique de l'entreprise et l'éthique. Et je mentionne peut-être juste une phrase qui peut être intéressante par rapport au débat de ce soir. L'éthique ne doit pas être cantonnée aux marges. C'est un peu la RSE. La RSE. Non, c'est Cécile Renoir que je cite. C'est un peu la RSE qui serait dans le bureau à côté de celui du président et occupé par sa femme, et qui s'occuperait à la fois des fondations et de la RSE. C'est quand même un peu ce dont on vient. Mais on doit convenir que l'interrogation éthique concerne tous les secteurs de l'activité économique et financière, l'utilité sociale du produit, les modèles techniques de production, les choix d'investissement et de partage de la richesse créée, les dimensions comptables et fiscales, les conditions de travail. Elle va assez loin, et je mentionnerai là-dessus qu'avec un garçon qui s'appelle Gaël Giraud, ils ont écrit un livre qui s'appelle « Le facteur 12 », qui est la limitation des rémunérations. Je ne fais qu'expliquer, je ne fais qu'exposer, d'accord ? Loin de moi, je suis modérateur. Le modérateur ne donne aucun avis personnel. Mais je vous l'ai dit exactement, le facteur 12, c'est l'éventail des rémunérations de 1 à 12, et qui a donné lieu à une initiative en Suisse de votation qui a failli passer. Ça avait failli être un tremblement de terre en Suisse, et vu la hauteur des montagnes, ça aurait été très, très ennuyeux. Voilà, il y a eu évidemment Daniel Hurstel qui vous a expliqué des choses passionnantes, mais vous étiez tous là, donc je ne le rappelle pas. Michael Xiparas qui vous a parlé de la propriété, la notion de propriété. Et ça également me paraît un thème extrêmement important. Je suis, en tant qu'actionnaire, je ne suis pas propriétaire de l'entreprise. pas de la, oui, l'entreprise, je ne le suis pas, malgré ce que 99% des gens, y compris ceux qui sortent des meilleures écoles de commerce, continuent à penser. En revanche, je suis propriétaire d'une action. Et qu'est-ce que c'est que ce droit de propriété? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un droit absolu que je peux, un droit absolu que je peux exercer comme je le veux, ou est-ce que ce serait autre chose? Là, je crois qu'il y a vraiment également, par rapport au, il y a vraiment un axe tout à fait intéressant. Voilà, voilà un peu ce qui s'est passé jusque-là, de manière très très brève, c'est évidemment très très riche. Et ce soir, donc, à ma gauche, hein, c'est un début de, voilà, d'un bel événement sportif. Cynthia, vous êtes philosophe et psychanalyste praticienne. Ne résumerai pas ici l'ampleur de vos travaux, évidemment, et aimerais simplement indiquer deux, trois éléments. D'abord, l'importance à vos yeux de l'entreprise me permet de citer, alors ce n'est pas un livre, c'est une interview, vous le comprendrez à son ton, l'entreprise est le cœur vivant de la société. Si elle fonctionne dans un, pour montrer déjà que nous avons un philosophe qui s'intéresse à l'entreprise, hein, vous pouvez mieux partir de cela. Si elle fonctionne dans un cadre démocratique, elle n'est pas elle-même une véritable démocratie, plutôt un laboratoire, un lieu d'avant-garde, et ça c'est passionnant. Parce que quand un patron le décide, il peut parvenir en 3 ans à une forme d'appropriation de nouveaux comportements sociaux et professionnels, chose absolument impossible ailleurs, État ou administration, et... Et les entreprises sont des moteurs sur des sujets tels que la discrimination, la parité ou l'environnement. Vous demandez, alors évidemment, vous demandez, Cynthia, à ces dirigeants, vous leur demandez beaucoup aussi. Dans un autre article, vous parliez d'ailleurs, on était sur le gaz de schiste, ouais, enfin, c'est difficile, pour le principe, vous parliez du principe de responsabilité. Et vous faisiez référence à la responsabilité chez Jonas, agit constamment en sorte, vous adressiez là évidemment aux dirigeants, agit constamment en sorte que les conséquences de ton action, pas seulement mais notamment aux dirigeants, que les conséquences de ton action demeurent compatibles avec la persistance d'une vie authentiquement humaine. Oui, c'est ça, Jonas. Oui, je sais, vous citiez Jonas, d'une persistance d'une vie authentiquement humaine sur cette terre. Oser l'altruisme. Ce n'est pas parce que les choses, et là vous citiez bon, Mathieu Ricard, pas Jonas, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas. Et ceci m'amène à votre grand thème plus récent, qui est celui du courage, sur lequel vous avez fait un livre, et notamment, il y a également un article que j'ai vu récemment extrêmement riche. Là vous faites référence, mais vous êtes largement évidemment approprié cette notion, mais partant de Yankelevitch, le courage est la vertu réussie entre toutes. Et je me permets, le courage est ainsi une affaire de seuil, de saut. Le rapport avec ce dont nous allons parler ce soir est très, 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 très fort. Impossible de se dire courageux, il faut simplement l'être, dans l'instant. L'aliénation sociale, je dois jouer le jeu de ne pas voir que je joue le jeu. Le courage n'est pas synonyme de bien-être. Il est indissociable d'un effort et d'un art de vivre qui sous-tend un prix à payer. Celui de risquer sa vie, et Cynthia le demandera de tous, mais également évidemment du dirigeant, et d'elle-même, ça, bien sûr. Et si elle n'est pas en adéquation avec une certaine vision qu'elle a d'elle-même. Le courage reste toujours à faire et à prouver, ce qui est fait reste à faire. Le téméraire n'est pas un courageux, je crois que vraiment nous reviendrons à cela. Telle est donc la clé du commencement. Le courage est affaire de commencement parce qu'il est l'une des plus sûres manifestations de la volonté. Je pourrais continuer, je ne continuerai pas, mais voyez l'importance qu'elle y accorde. Renoncer à ses principes sur le long terme, et ça c'est une idée vraiment intéressante, provoque toujours une érosion du sujet. Provoque une érosion du sujet dont il ne sera pas si simple de guérir. Mais vous ne vous arrêtez pas, Cynthia, aux imprécations faites aux autres. Vous mettez aussi les mains dans le cambouis. Je sais que de grandes entreprises vous consultent sur la question de la prise en charge des intérêts des parties prenantes. Vous préconisez l'esprit d'innovation, la critique constructive et son accueil. Vous montrez même, j'ai vu, un intérêt souvent exprimé pour la Jugad Innovation. On pourra y revenir et vous n'hésitez pas à aller, puisque je parlais de cambouis, jusqu'au moteur diesel du Punjab. Vous parlez des parties prenantes, vous justifiez leur participation, à mon sens, quand vous écrivez que personne... Ça me paraît très extrêmement intéressant et ça revient à une notion, une conception de l'entreprise, celle qu'elle a été dite plus haut, notamment sur le bien commun, comme bien commun. Quand vous écrivez que personne ne détient le monopole de la régulation d'entreprise, tout le monde, dites-vous, est responsable de la non-perversion du système et des dysfonctionnements répétés. Vous, Antoine Frérot, grand chef d'entreprise, à la tête d'un groupe de 23 milliards de chiffre d'affaires, excusez du peu, dont le résultat opérationnel est d'environ 500 millions et comptant 230 000 salariés. Je pense que je m'arrête juste un instant sur le fait que nous pouvons quand même être sensibles au fait qu'Antoine Frérot prend une de, comme nous le sommes pour Citia évidemment, mais prend une de ses soirées pour vous. Vous n'hésitez pas à faire bouger les lignes, vous venez de mettre en place un plan de transformation profond et quand on voit à quoi vous avez touché dans un groupe qui est dans l'activité largement, enfin sur les concessions, j'imagine que ça a dû être extrêmement compliqué. La charte du comportement également. Votre présence ce soir est d'autant plus intéressante que l'activité de votre groupe touche à un bien que je pourrais dire sensible et que je pourrais dire commun. L'eau, avant tout, évidemment, également les deux autres domaines d'activité, déchets et énergie, ont la même caractéristique. L'eau est encore à la source de la santé et donc de la possibilité d'utiliser ses capacités d'un grand nombre de personnes dans le monde. Donc, quelle responsabilité et quel sujet intéressant donc de parler de partie prenante quand on est sur ces trois sujets, notamment sur celui de l'eau. Quelle responsabilité vous allez. Il y a ensuite la difficulté hein, par rapport à ce courage d'agir, cette nécessité d'agir maintenant que nous rappelle Cynthia Fleury. On peut noter en face de cela que vous présidez un conseil d'administration dont tout le monde sait qu'il est difficile. Et c'est moi qui parle, je ne vous demande pas d'approuver quelques propos, mais il est difficile et il a en son sein des gens qui ne sont pas là ce soir. Et qui ne seraient pas là ce soir, et qui sont peut-être, et ce n'est que moi qui dis cela, peut-être à l'image de ce capitalisme financier, peut-être court-termiste, comment un dirigeant qui a le souci du long terme, le souci du bien commun, comment fait-il pour agir, et le peut-il, et là, je crois vraiment, c'est sur ce sujet-là, la confrontation entre la nécessité de l'urgence, la nécessité de Cynthia d'agir maintenant, et la contrainte dans laquelle vit chaque jour un grand dirigeant d'entreprise. Je vous ai donné quand même, je vous ai un petit peu placé le décor, et je crois un sujet sérieux. C'est un sujet sérieux, c'est un sujet extrêmement important dont nous allons pouvoir parler ce soir. Vous êtes un homme d'écoute, vous le montrez par votre présence ce soir, vous l'avez montré par votre présence au colloque de Cerisy, vous le montrez dans des écrits nombreux, la critique du court-termisme, ce que vous appelez le rétrécissement du temps, dont vous indiquez que l'entreprise souffre. Je vous cite pour montrer cette conception que vous avez, vous aussi, de l'entreprise, avant tout un nœud de relation entre les parties prenantes qui choisissent de collaborer pour créer des bénéfices pour tous, un bon équilibre entre toutes les parties prenantes, c'est une simple considération de long terme. Je pense que ces deux phrases parlent pour elles-mêmes. Quand vous parlez du possible, nous saurons que cela vient d'un homme dont le possible est précisément guidé par le souhaitable. Ce qui, chez Cynthia, serait plus peut-être le vouloir et le pouvoir. Ce sont vos deux regards croisés ce soir, Cynthia et Antoine, si vous permettez, qui nous ont fait nous déplacer. Le constat est clair, je crois que nous sommes tous, nous le partageons à peu près, mais l'évolution récente du monde des affaires ne s'inspire pas de ce constat. Elle ne repose pas de ce constat, quelle que soit l'unanimité que l'on trouvera dans cette salle. Cette salle reste isolée. Ça, si je puis faire appel à mon expérience quotidienne, ça, je suis sûr, j'en suis malheureusement sûr, et plus encore que quand je suis venu vous voir il y a 6 mois. Les propositions foisonnent. Alors, à la philosophe que vous êtes, Cynthia, on voudrait demander, est-il urgent d'agir, effectivement, et si nous ne le faisons pas, est-ce par manque de courage, terme qui vous est cher, que les choses bougent si peu? Et au grand dirigeant que vous êtes, Antoine, est-il si difficile d'agir? Peut-on agir, et est-il si difficile d'agir? Et cette confrontation d'idées, nous allons la faire particulièrement, l'orienter particulièrement autour de la notion de la prise en compte des parties prenantes. Autre lieu, cette prise en compte de la rencontre entre l'intérêt particulier et l'intérêt général. Voilà, je propose, je crois, que vous commenciez, si vous voulez bien. Donc, nous allons commencer par deux exposés, hein, donc par Antoine Frérot, puis suivi Et là, nous n'aurons pas de questions à ce stade-là, si vous voulez bien, un deuxième exposé par Cynthia Fleury. Et ensuite, nous pourrons avoir notre débat, si le maître des lieux est bien d'accord.
Les maîtres
des lieux, voilà. Merci.